Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, des témoignages, des décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast Faits divers du Dauphiné libéré.
Le 8 janvier 2002 à Avignon, le corps de Marie-Andrée Fesquet est retrouvé atrocement mutilé. Odieux, épouvantable, insoutenable. Cette surenchère de qualificatifs est volontaire car les mots ne paraissent pas assez forts pour qualifier ce crime inexplicable qui avait à l'époque suscité l'effroi dans le Vaucluse. La chanteuse Mireille Mathieu, originaire d'Avignon, avait elle aussi manifesté publiquement son indignation. Un crime d'autant plus inexplicable que Marie-Andrée Fesquet n'avait pas d'ennemis. Qui pouvait en vouloir à celle qui avait été élue super mamie 1998 ? Une femme pétillante qui aimait la vie. Ceux qui la connaissaient la surnommaient le rossignol. Elle rayonnait et apportait du bonheur autour d'elle. 69 années de vie intense. Une vie de femme, de mère et de mamie. Jusqu'à ce fameux soir d'hiver où deux jeunes hommes de 16 et 18 ans se sont introduits chez elle et lui ont fait vivre un véritable calvaire. Voici l'histoire de Marie-Andrée, super mamie, suppliciée à mort. Mais réduire la vie de Marie-Andrée Fesquet à cet horrible fait divers serait une offense à sa mémoire, un manque de respect à sa famille. Malgré la douleur, son fils Philippe Hermé a gentiment accepté d'ouvrir l'album souvenir.
Donc ma famille était originaire du Gard, donc d'Aigues-Mortes, enfin du côté de ma mère. Mon père, lui, était à Montpellier. Donc au départ, elle était toute seule dans sa famille. Puis est né son frère quelques années après, je crois qu'ils ont... 6 ou 8 ans d'écart, je dirais plutôt 6 ans d'écart. Donc pendant quelques temps, elle était élevée, elle était un petit peu la chouchoute de son père. Mais très vite, maman elle aimait le théâtre, elle aimait le chant, ce qui à cette époque, dans les années 30, les années 40 même, n'était pas très bien vu, parce que quand elle a commencé à dire « je voudrais faire de la musique », par exemple, lui dit non, c'était très mal vu à l'heure actuelle. Par exemple, les chanteurs, les chanteuses d'opéra. Donc, sa mère lui disait, il vaut mieux qu'ils apprennent à tenir un ménage, on va dire, pour être poli, plutôt que d'aller. Mais elle aimait, par exemple, elle avait une tante, la sœur de sa mère, qui habitait Nîmes, donc déjà dans une ville, et qui allait au théâtre, et elle l'amenait au théâtre. Donc, elle était fascinée par l'opéra et le théâtre. Donc, ça s'est inscrit dans, tout enfant, ça s'est inscrit dans un coin de sa mémoire. Ensuite, donc, à l'âge de 18 ans, elle était quand même, il y avait un carcan familial à l'époque. Donc, elle a connu mon père, qui, lui, venait travailler sur Aigues-Mortes. Ils avaient un an d'écart. Mon père était plus âgé d'un an. Et donc, elle a connu, mais c'était à l'époque, si on fréquentait, on était libre de sortir. On était beaucoup plus libre parce qu'on était accompagné d'un garçon. Et donc, elle a pris ça plus comme une liberté, comme un grand amour. Ce qu'elle nous racontait, bien sûr. Donc très rapidement, elle a eu 4 enfants qui se sont succédés. Ma sœur aînée donc Elisabeth, puis Michel, qui vit à l'heure actuelle aux États-Unis. Puis moi, je suis arrivé en troisième dans la fratrie. Et quelques années après, est née ma petite sœur Cathy. Donc il y avait une famille qui était assez assise, avec 4 enfants. Donc ça a été une maman avant tout. Donc mon père travaillait, il était agent SNCF. Donc il travaillait beaucoup. Pour faire vivre cette famille, et elle se consacrait au ménage. Donc on a une maman aimante, bien sûr, mais ça sautait d'un enfant à l'autre, quoi. C'était particulier quand on avait 4 enfants à cette époque-là.
Avec les années 60-70, un vent d'émancipation souffle et Marie-Andrée, qui est à la fleur de l'âge, se sent poussée des ailes. Son cœur chavire pour un autre homme, le couple divorce, la famille vole en éclats. À l'époque, Philippe avait tout juste 16 ans.
Elle a connu l'amour tardivement. Elle était presque à la quarantaine, quoi. Donc, à partir de là, a commencé pour elle une nouvelle vie. Donc, c'était, il n'y avait plus de famille, c'était éclaté. Elle a gardé ma petite sœur, qu'elle a continué à élever, qui avait 14 ans au moment du divorce. Donc, elle a continué avec ma petite sœur Cathy. Mais disons, elle s'est retrouvée confrontée à la vie. Donc, heureusement, la personne avec, qu'elle avait connue, donc, l'a aidée, lui a redonné confiance, et l'a aidée à rentrer dans sa deuxième partie de vie. Donc, elle a passé l'examen pour rentrer à l'hôpital d'aide-soignante. C'est pas évident à cet âge-là. Elle a réussi. Elle s'est investie là-dedans. Moi, je la voyais, elle bouquinait, elle apprenait. Elle avait des encyclopédies. Enfin, voilà. Elle s'était donnée. Elle a dit, pour m'en sortir, il me faut ça. Et elle voulait rentrer dans le milieu médical. Et donc, elle a réussi son examen. Elle est rentrée à l'hôpital Henri Dufaux, qui à l'époque était, enfin, c'était l'hôpital d'Avignon. Il était là où on a la fac, à Saint-Lazare. Alors, elle le racontait de deux façons. Des fois, avec beaucoup de tendresse. Et parfois, avec... beaucoup de désinvolture, c'est-à-dire que parfois elle racontait des actes chirurgicaux, des trucs comme ça, et c'était, on était en train de manger, elle disait, non, c'est pas possible. Et puis autant elle vous racontait que, elle vous disait, ça m'attendrit ce que je vais vous dire, mais elle disait, voilà, il y a monsieur un tel, donné par son nom, ça fait plusieurs mois qu'il est dans notre service, et puis aujourd'hui je lui ai tenu la main pour son départ. Voilà, elle assistait les gens, chose qui se fait très rarement dans les hôpitaux, ça se fait dans les EHPAD maintenant, mais elle l'accompagnait, elle rentrait, elle était bouleversée, elle essayait de ne pas le montrer, mais on sentait en elle une profonde... Elle rentrait, elle était bouleversée parce qu'une personne qu'elle soignait depuis pas mal de temps était partie. Alors, on savait que c'était normal, mais elle lui avait tenu la main jusqu'au bout. C'était bouleversant quand elle vous racontait ça. Il y a une anecdote, qui est en rapport avec ce qui lui est arrivé. Un jour, donc, elle habitait à Avignon, à côté du quartier malfamé qui a été son enfer, quoi. Donc, elle habitait à côté de ce quartier. Elle avait une petite maison qu'elle avait achetée parce que ses parents lui avaient laissé après le divorce. Il lui avait dit, nous, ça sert à rien d'attendre qu'on soit mort pour te donner un héritage. On a des biens et on va te donner de l'argent pour que tu puisses acheter ta maison. Donc, elle avait payé une partie de sa petite maison avec ce que lui avaient donné ses parents. Elle avait fait un petit crédit complémentaire parce que il n'y avait pas la totalité. Donc, elle avait sa petite voiture de garée devant. Et il y avait toujours des gens qui passaient et qui commettaient des petits du style, ils s'introduisaient chez elle, où Léa, il lui avait ouvert sa voiture, et en fait, elle allait partir chez ses parents, elle est partie à Aigues-Mortes, et donc, sa voiture était ouverte, elle était sur le départ, et des jeunes sont passés, ils ont ouvert la voiture, ils ont piqué son sac. Et dans son sac, il y avait un peu d'argent, il y avait ses papiers, il y avait une ordonnance, et des médicaments qu'elle avait, des médicaments qui étaient renouvelés, donc comme elle savait ce qu'il fallait, il y avait l'ordonnance de son père qui était très importante pour ses médicaments. Elle a pris sa voiture, est allée dans le quartier, elle a vu un groupe de jeunes qui étaient sur un banc, elle est allée au culot. Elle a dit, voilà, écoutez, il y a des jeunes qui m'ont volé dans ma voiture un sac à main. Je m'en fous de l'argent. Les papiers, je peux les faire refaire, mais une ordonnance que je ne peux pas refaire, qu'il me faut immédiatement parce que mon père est malade et il faut que je le soigne. Je pense qu'elle a été tellement crédible que les gamins ont dit, oui, on pense savoir qui c'est, mais les gamins sont allés récupérer l'ordonnance et le portefeuille. Elle a dit, gardez l'argent, c'est pas problématique. Vous gardez l'argent, il devait y avoir peut-être 50 francs dedans. Gardez l'argent, mais je récupère l'ordonnance. Voilà, voilà qui était ma mère.
À l'âge de la retraite, elle renoue avec sa passion de jeunesse qu'elle avait enfouie, la musique et la chanson.
Maman chantait tout le temps. Quand j'étais enfant, maman chantait Piaf. Et dernièrement, j'en ai parlé avec mon formateur, avec Richard Cross, qui me disait, mais comment tu es venu à la musique? Mais je dis, j'en sais rien. Je dis, et puis en allant chercher dans mes souvenirs, en parlant, je dis, mais ma mère a toujours chanté. Et à l'époque, on n'avait pas les MP3, on n'avait pas les bandes d'orchestre. Elle chantait, elle s'accompagnait à la main, comme ça, elle faisait ça, écoutez le bruit, ça faisait... C'est elle qui m'obsède, jour et nuit. Elle chantait en s'accompagnant comme ça. Donc, elle, sur une cloison, ça résonnait un peu. Et dans les pièces, ça résonnait, elle chantait. C'était absolument merveilleux. Donc, elle est rentrée dans une chorale. Dans une chorale, vous êtes au milieu d'autres personnes. Et... elle s'est liée d'amitié avec une autre choriste qui, elle, avait une voix plutôt d'opéra, alors que ma mère, elle voulait chanter de la variété, elle s'en foutait de ces trucs-là. Et donc, avec cette copine qui était, elle, très, on va dire, cul-pincée, ma mère était vraiment à faire des blagues, et elles se sont liées d'amitié, elle s'appelait Mercedes, elles se sont liées d'amitié. Donc, une très coincée, très collimentée, elle faisait très bourgeoise, etc. Et ma mère, qui, elle, était toujours à rigoler, à faire des blagues à deux balles, elles se sont liées d'amitié parce que. Elle représentait l'opposé l'une de l'autre, son lien d'amitié. Et donc, dans cette chorale, je vais être grossier, elle foutait le bordel. Donc, elle se sent fait virer. Et donc, ma mère voulait continuer à chanter. Donc, elle est rentrée dans des petites associations, des petits groupes où elle faisait de la variété. et elle chantait. Et puis après, elle m'a demandé de lui faire des bandes d'orchestre, donc je lui faisais des playbacks de Piaf, et elle a commencé à faire des petits galas, quoi.
Marie-André était une femme qui n'attendait pas qu'on lui tienne la main pour faire des choses.
Un jour, maman est allée aux États-Unis toute seule. Donc elle a pris la viole, elle est allée chez ma sœur, et puis elle a dit, écoute, moi je veux bien rester une semaine, ou 15 jours, je ne me rappelle plus, j'ai envie d'aller voir Las Vegas. Elle voulait aller à Las Vegas. Ma sœur était à Los Angeles, donc à Santa Monica, et elle voulait donc aller à Las Vegas. Elle veut voir Las Vegas. Elle a loué une voiture, elle s'est tapée la distance, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas si c'est 400 ou 600 km, elle s'est tapée toute la distance, seule en voiture, pour faire Los Angeles, Las Vegas. Elle connaissait rien là-bas. Je lui ai appelé la voiture. C'est gonflé. C'est gonflé. Quelques jours avant sa mort, elle était, je dirais pas perdue, mais elle était dans une espèce de mélancolie profonde. Et là, je suis resté avec elle plusieurs heures à parler. Elle m'a dit des choses qu'elle ne m'avait jamais dites, notamment sur sa vie, sur sa jeunesse. Et on dit que bien souvent, il se passe des événements avant la mort où on range un petit peu sa vie.
Et puis est venu le jour où Marie-André est devenue super mamie grâce à l'un de ses petits-fils. Il semblerait malheureusement que tout soit parti de cette notoriété.
Mes neveux ont dit, on va l'inscrire. Bon, tout ça s'est fait quand même avec des accords, mais on va l'inscrire parce qu'il fallait lui demander son avis. Et elle trouvait ça super. Donc, il fallait que ce soit des petits-enfants qui l'inscrivent. Donc, ils l'ont inscrite, ils ont fait la procédure d'inscription. Et il fallait dire, qu'est-ce qui, chez votre grand-mère, qu'est-ce qui est d'exceptionnel ? Et ils ont dit, bon, tout ce que je viens de vous dire, voilà, elle est exceptionnelle. C'est une super mamie, voilà, elle chante, elle va chanter dans les maisons de retraite, elle est partout, elle est hyper active, c'est une super mamie. Voilà, c'est ça convenait parfaitement au terme. Donc, elle a fait un premier, une première régionale où elle a été élue super mamie PACA. Donc, je crois que la finale était à Nice, un truc comme ça. Donc, elle est rentrée dans le comité super mamie. Et après, sur le plan national, elle est arrivée dauphine, un truc comme ça, première dauphine, quelque chose comme ça. Donc, ça a été un truc pour elle. Elle avait l'écharpe et tout. Ça a été quelque chose de phénoménal parce que c'était une espèce de consécration à la fois de son talent, qui venait sur le tard, mais à la fois de sa position de femme, c'était la consécration. Voilà, c'était énorme, énorme, énorme. On l'appelait, dans le quartier, on l'appelait la super mamie. Voilà, c'était la super mamie. Les commerçants la connaissaient, la super mamie. Et un jour, elle va faire son loto dans le bureau de tabac du coin. Et elle ne fait pas un loto, elle prend, vous savez, ça s'appelait les Vegas à l'époque. Donc, on gratte des trucs. Hein, et puis, d'un coup, elle dit, j'ai gagné 50 000 francs. En fait, c'était 500 francs. Mais elle parlait, vous savez, il y a beaucoup de personnes de cet âge-là qui parlaient encore en ancien franc pour les grosses sommes. Elle disait, j'ai gagné 50 000 francs. Sur le coup, donc, dans le truc, j'ai gagné 50 000 francs, elle était toute heureuse. Mais c'était 500 francs. Et on pense qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui a entendu ça. Et ces gens-là ont pensé qu'elle cachait un magot chez elle.
Arrive ce maudit soir où Marie-André tombe nez à nez avec ses bourreaux. Deux petites frappes, prêtes à tout pour mettre la main sur un magot imaginaire. Elle fait le tour de sa maison pour fermer les volets. Ils en profitent pour s'introduire chez elle et vont la torturer pendant plusieurs heures.
Là, on rentre dans autre chose, hein, parce que c'est beaucoup plus violent. Donc moi, La veille, maman nous appelle, c'est mon épouse, ma deuxième épouse, donc qui l'appelle et qui lui demande le programme de la télé. Elle lui dit, qu'est-ce que je t'appelle pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à la télé. Et donc elles discutent toutes les deux, elles se racontent leur journée et tout. Et puis elle dit, Philippe est là, je voudrais lui parler. Et moi j'étais un peu... J'étais pas très bien, j'étais un peu agrippal, voilà, j'étais pas très bien. J'ai dit, oh, écoute, maman, on se verra un autre jour, je suis pas très bien, je vais me coucher, je suis pas bien. Donc, parce que c'était toujours très tard quand on s'appelait le soir, du style 9-10 heures du soir. Et donc, je lui parle pas ou très peu. Le lendemain, le téléphone sonne assez tôt, moi ce que j'appelle assez tôt, du style peut-être 7h30, 8h du matin, j'ai pas le temps de répondre, le temps de me réveiller, j'étais pas bien. Et j'écoute le répondeur et là j'entends Philippe, c'est le fils de sa meilleure amie, donc Mercedes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui me dit il faut de suite que tu viennes, il faut que tu me rappelles ou que tu viennes tout de suite, ta mère est morte. Wow. Donc là, vous êtes glacé, vous vous dites non mais c'est une blague ou quoi. Donc je le rappelle, il me dit écoute, il faut que tu viennes tout de suite. Ta mère est décédée, je ne peux pas t'en dire plus, je n'en sais pas plus, il faut que tu viennes tout de suite. Donc là, je me rends au domicile de ma mère, et là, stupéfaction, ambulance, police, des flics partout. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je dis mais on ne sait pas, on ne pouvait pas. Je veux rentrer chez ma mère. Non, on ne pouvait pas rentrer. C'est pas possible, c'est une scène de crime, on ne peut pas rentrer. Coma. J'appelle la famille, etc. Tout le monde appelle parce que l'information va très vite. Et on attend du style 8h du matin jusqu'à 11h du matin, comme ça, dans le froid, à donner des nouvelles aux uns, aux autres. Voilà. Puis après, on nous dit, bon, là maintenant, il faut quitter les lieux. Et donc, on a des policiers qui nous disent, il faut que vous veniez tout de suite au commissariat de police, c'est là-bas que ça va se passer. Donc on n'a même pas vu la levée du corps, on n'a pas pu rentrer, tout a été mis sous scellé, donc c'était terminé, voilà. On n'a pas vu notre mère, ça s'est passé, c'est un moment de cauchemar abominable. Et donc on passe la journée au commissariat, donc on a des enquêteurs qui sont, qu'on sent glacés quand même, et donc ils nous demandent un petit peu ce qu'on a fait, qu'ils nous demandent de parler de l'entourage de notre mère. Bien sûr, on comprend vite qu'ils sont sur une enquête, qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est un cambriolage, si c'est quelqu'un qui est venu, on ne sait pas, on sait simplement que notre mère est morte. Voilà, c'est tout. Donc on cherche, on pense à l'un, on pense à l'autre, on ne sait pas du tout, aucune piste. Jusqu'au soir où je vous l'ai dit, moi je me retrouve devant la télé, à apprendre que, enfin, ce que les journaux disent, c'est-à-dire qu'elle a été agressée, qu'il y a eu des actes de torture, de barbarie, que ça a été abominable. Et voilà. Donc après, on n'en saura guère plus. Ce qu'on saura, on le saura par les journaux et au procès, où vraiment, on aura des détails à la fois sordides et à la fois. On aura l'historique complet de cette affaire. Voilà.
Il s'agit d'un crime hors du commun au vu de la sauvagerie des atrocités commises, dira le substitut du procureur d'Avignon de l'époque. Alertés par une voisine, les policiers découvrent le corps de Marie-Andrée allongé dans le séjour, le crâne fracassé, sa robe de chambre maculée de sang. Le médecin légiste constatera que la victime a été sauvagement violée avec son micro. Le 29 mars 2004, deux jeunes hommes comparaissent devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse. Dès les premières minutes de l'audience, ils se chargent mutuellement. Ils seront condamnés à 15 et 30 ans de prison. Maître Marc Gégère, avocat de la famille, s'en souvient encore.
Les souvenirs que j'ai de cette histoire, c'est un immense gâchis d'une femme qui n'a fait que le bien autour d'elle, qui n'était que bonne humeur, joie et gaieté de vivre, et qui s'est retrouvée finir sa vie dans les conditions les plus sordides et les plus horribles qu'on puisse avoir. C'était cette espèce de, c'est même le terme est même un peu faible, de paradoxe incroyable entre la personnalité de cette femme et la manière dont elle a pu être traitée. C'était vraiment ça. Finalement, les cités dans lesquelles habitaient ces jeunes, qui sont souvent des lieux de silence où on ne parle pas, les gens ont été tellement révulsés des faits qui avaient été commis que finalement les noms sont venus de la cité par l'intermédiaire d'un éducateur qui a reçu des confidences. Alors évidemment, c'est couvert de l'anonymat, mais c'est comme ça qu'on a pu individualiser les auteurs de ces faits. Je pense qu'en 30 ans de carrière, j'ai peut-être une petite dizaine d'affaires qui resteront gravées dans ma mémoire, et elle en fait partie, bien sûr. Ouais. Elle en fait partie pour tout ce que je vous ai dit, et puis parce que quand une personne disparaît et qu'elle a une telle personnalité, moi j'ai toujours le regret de ne pas l'avoir rencontrée en quelque sorte. Enfin, c'est ridicule de dire ça, personne ne mérite de mourir dans de telles conditions, mais a fortiori certainement pas elle, quoi. Je me rappelle de ma première phrase de plaidoirie. J'ai dit que ce jour-là, le rossignol de la rue du Gué-de-Savoir s'était définitivement arrêté de chanter.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.